Puis le cheikh a commencé à citer le deuxième degré. قال المصنف رحمه الله المرتبة الثانية الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وأركانه ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره كله من الله والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ودليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. Le deuxième degré qui est l'iman, la foi. La foi est divisée en 60 et quelques ou 70 et quelques branches. La plus élevée est de dire la ilaha illallah et la plus basse est de retirer une chose nuisible sur le chemin et la pudeur fait aussi partie de la foi. Les piliers de la foi sont de 6. Croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier. Croire en la prédestination, que celle-ci soit bonne ou mauvaise, provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala. La preuve de ces 6 piliers de la foi est dans le verset de Surah Al-Baqarah 177, dans le sens « La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou vers le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. » Là, combien de piliers sont cités ? 5. Et la preuve de la prédestination est dans le verset suivant, Surat al-Qamar, verset 49, dans le sens « Nous avons créé toutes choses avec qadar, avec mesure, prédestinée. » Donc, voici le sixième pilier de la foi. Donc, l'iman, il a aussi deux sens. Un sens général, qui vient dans le même sens que l'islam qu'on a cité tout à l'heure, c'est-à-dire, c'est la religion avec laquelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Et la réalité de cela, c'est de rendre véridique, de manière certaine, extérieurement et intérieurement, la croyance en Allah tabaraka wa ta'ala, et de l'adorer avec la législation qui a été révélée à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit de manière à, comme si on voyait Allah, et si on ne le voit pas, comme s'il nous surveillait, lui, subhanahu wa ta'ala. Et son sens précis, c'est les croyances internes. Ce sens précis, quand il est cité en même temps que l'islam et l'ihsan, ou avec l'un des deux. Que ce soit qu'il soit cité avec les deux ensemble, ou avec l'un des deux. Il prend un sens plus précis, qui est quoi ? Les croyances internes, qui sont nommées iman. Et les savants ont divergé sur le nombre de branches de la foi, à cause de différentes versions du hadith. 60 et quelques ou 70 et quelques. Dans certaines versions, il est rapporté 60 et quelques. Dans d'autres versions, il est rapporté 70 et quelques. Bid'un wa sittun. Bid'un, en arabe, c'est entre 3 et 9. Donc 60 et quelques, 70 et quelques. Et les branches de la foi, ce sont les différentes parties de la foi. Et parmi ces parties, il y a des paroles. Parmi les branches de la foi, il y a des actes. Et parmi les branches de la foi, il y a des actes du cœur. Et les trois sont cités dans le hadith qu'on a cité tout à l'heure. La foi est de 60 et quelques branches. Sa plus haute est la parole. La ilaha illallah. Sa plus basse est de retirer un objet nuisible sur le passage des gens. Ça, c'est un acte. Et la pudeur fait partie de la foi. Ça, c'est un acte du cœur. Et ceci vient rejoindre la définition que les musulmans, que les gens de la sunna donnent à la foi, que la foi comprend des paroles, des actes et une croyance du cœur, et elle augmente par l'obéissance à Allah, et elle diminue par la désobéissance. Donc la croyance, la foi, sont des paroles, des croyances et des actes, qui augmentent par les bonnes actions et qui diminuent par les mauvaises actions. Elle peut diminuer jusqu'à être comme une graine de moutarde, ou jusqu'à même disparaître complètement. Et elle peut augmenter comme être la montagne de Uhud. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous donne une foi ferme, solide. Quand on parle des piliers de la foi, il y a un point essentiel à connaître. On dit qu'il est obligatoire à chaque musulman de connaître les piliers de la foi. Quelle est cette part qui est obligatoire à connaître pour chacun ? Est-ce que tout le monde doit connaître les détails de la croyance en Allah, par exemple les livres de Tawhid, là, tout ce qu'il y a en détail dedans ? La croyance aux anges, il doit connaître le nom des anges, il doit connaître leurs aptitudes, leurs missions. S'il ne connaît pas ces choses-là, est-ce que sa foi est valide ? Si quelqu'un ne connaît pas ces choses-là, Est-ce qu'on dit que sa foi est valide? Quelle est la partie nécessaire pour que sa foi soit valide? Et ça, on ne le trouve pas détaillé dans beaucoup de livres. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, l'a bien expliqué dans Miftah Dar al-Sa'ada. Alors, en ce qui concerne la croyance en Allah, le minimum pour que la foi d'une personne soit valide dans la croyance en Allah, il doit croire dans l'existence d'Allah comme Seigneur, qui mérite d'être adoré et qui possède les plus bons noms et les meilleurs attributs. S'il croit en ça, il a le minimum de croyance obligatoire concernant Allah tabaraka wa ta'ala. De prime abord, jusqu'à que d'autres informations lui viennent. Par contre, après, si des preuves lui sont récitées, des détails sur les noms et les attributs, alors à partir de là, il devra croire dans ces détails. Mais tant qu'il n'a pas eu atteint ces preuves-là, le minimum de validité pour sa foi, c'est de croire en l'existence d'Allah comme Seigneur, méritant l'adoration, qui a les plus beaux noms et les plus hauts attributs. Concernant la foi dans les anges, c'est de croire qu'ils sont des créatures parmi les créatures d'Allah, et que parmi eux, il y en a qui descendent avec la révélation sur les prophètes d'Allah, par l'ordre d'Allah. Si on lui dit, comment il s'appelle cet ange qui descend, on attrape un musulman n'importe où sur terre. On lui dit, est-ce que tu crois aux anges? Il dit oui. Tu lui demandes, c'est quoi les anges? Il dit, c'est des créatures qu'Allah a créées, et il y en a parmi eux qui descendent la révélation sur les prophètes d'Allah par l'ordre d'Allah. Avec ça, il a le minimum de croyance qu'il doit avoir dans ce pays. Si tu lui dis, comment il s'appelle cet ange? Je ne sais pas. Est-ce qu'on le sort de l'islam? Non. Par contre, si après nous on lui récite les versets du Coran, qu'il s'appelle Jibril, on lui récite les versets, à partir de ce moment-là, il est obligé de dire il s'appelle Jibril. S'il dit non, il ne s'appelle pas Jibril, là il sort de l'islam, parce qu'il a renié les versets. Vous avez compris? Mais nous on parle initialement, de prime abord, ce qu'il doit connaître avant même que d'autres preuves, d'autres détails lui soient présentés. C'est de croire de cette manière. Concernant la croyance dans les livres, le minimum pour valider cette croyance, c'est le fait de croire qu'Allah a descendu sur qui il veut parmi ses messagers des livres qui sont sa parole à lui, pour que ses messagers jugent entre les gens concernant leurs points de divergence, et que tous ces livres sont abrogés par le Coran. La croyance minimum en les livres, c'est de croire qu'Allah a révélé à qui il veut parmi ses messagers des livres qui sont la parole d'Allah, pour que ses messagers jugent entre les gens en ce sur quoi ils divergeaient, et que tous ces livres sont abrogés par le Coran. Si tu lui dis, il y a quoi comme autre livre? Il dit, je sais pas. Est-ce qu'on dit de lui qu'il est musulman? Dites-moi. Il est musulman, il est croyant. Si on dit, est-ce qu'Allah il a révélé des livres? Oui, Allah il a révélé des livres. Quel est son, le livre qui est venu, le dernier livre et le livre qui est venu abroger tous les autres livres? Il dit le Coran. À partir de là, il a le minimum de croyance dans les livres. C'est pour cela, barakallahu fikoum. Quand on connaît ces points-là, on sait sur quel point on doit faire l'effort sur le commun des musulmans. On doit leur inculquer ces bases, ces fondements, sans lesquels ils n'ont pas le minimum de la foi. Voilà pourquoi on trouve les prédicateurs, les chouyoukhs, les savants, ils répètent ces faits. Partout où ils vont, ils enseignent ces points. Car personne ne peut avoir une foi valide sans ces points-là. Concernant la foi dans les prophètes, le minimum valide, c'est de croire qu'Allah a envoyé aux gens des messagers parmi eux, c'est-à-dire les messagers parmi les hommes, pour que ces messagers leur ordonnent d'adorer Allah, et que le dernier de ceux-ci est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. S'il ne sait que ça, il est déjà musulman. Il ne connaît pas le nom des autres prophètes. Il sait qu'Allah a envoyé d'autres prophètes, mais il ne connaît pas leur nom. Par contre, si on lui récite les versets avec les noms des prophètes, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, à partir de là, il devra croire. En ce qui concerne la croyance dans le jour dernier, le minimum valide, c'est de croire dans la résurrection pour un jour énorme, qui est le jour du jugement dernier. Et les gens seront rétribués ce jour-là. Celui qui a fait du bien, il sera rétribué par le bien qui est le paradis. Et celui qui a fait du mal, il sera rétribué par le mal qui est l'enfer. Donc si la personne ne connaît pas les détails de ce qui se passe le jour du jugement dernier, le détail du paradis, de l'enfer, de la balance ou autre, parce qu'il ignore, alors sa foi est valide tant qu'il n'a pas rejeté un texte clair qui lui a été proposé, il l'a rejeté. En ce qui concerne la destinée, le minimum à savoir pour valider la foi, c'est la foi que Allah a destiné toute chose, que ce soit en bien ou en mal, et ça, éternellement. Et il n'y a rien qui se fasse sans sa volonté et sans qu'Allah l'ait créé. Et il n'y a rien qui se fasse sans sa volonté et sans qu'Allah l'ait créé, subhanahu wa ta'ala. Voilà le minimum. Donc il y a un minimum obligatoire à connaître de prime abord, initialement, par lequel la croyance et la religion d'une personne n'est pas valide sans ça, c'est ce qu'on vient de citer. Et il y a une obligation à connaître qui vient en deuxième lieu, qui est liée à la science de la personne, à ce qui lui arrive comme science, ou à la capacité qu'il a d'atteindre certaines connaissances. Donc s'il a la capacité d'atteindre certaines connaissances, elles lui sont accessibles, ou bien elles lui sont présentées, et lui il les néglige ou il les rejette, à partir de là, il est négligent. Si on lui lit les versets sur la balance, du jour du jugement dernier, on lui rapporte les hadiths sur la balance, et après ça il les renie, alors à partir de là, il aura renié la foi. Par contre, si auparavant il ne connaissait pas, on ne dit pas de lui qu'il n'est pas musulman parce qu'il a ignoré ce point-là. Vous avez compris l'importance de connaître cette limite ? Donc là, on a parlé du minimum à connaître dans ces points-là. Le maximum, ça demande beaucoup de cours, mais on va expliquer, on va dire, en général, les points essentiels à connaître dans chacun de ces points. Croire en Allah, comme on a dit, c'est croire en l'existence d'Allah, tabarak wa ta'ala, croire en sa seigneurie, qu'il est le seigneur et maître qui possède, qui dirige et qui pourvoit à toute chose, croire en sa divinité, c'est le seul qui mérite d'être adoré, et croire en ses noms et ses attributs qui sont affirmés dans le Coran ou dans la Sunna authentique. Et on ne lui donne aucun nom ou attribut qui ne sont pas affirmés dans le Coran ou dans la Sunna authentique. Croire aux anges, c'est le fait de croire que les anges sont des créatures créées de lumière, dévouées à l'adoration d'Allah tabarak wa ta'ala, appartenant à un monde invisible. Ils ne possèdent aucune spécificité relative à la seigneurie et à la divinité, car celles-ci sont propres à Allah tabarak wa ta'ala. Ils sont dotés d'une faculté de soumission totale aux ordres d'Allah tabarak wa ta'ala. La foi aux anges comprend quatre points. Croire en leur existence. Avoir foi en ceux dont nous connaissons les noms, comme Jibril, et en ceux dont les noms nous sont inconnus de manière générale. Troisièmement, la foi aux caractéristiques de ceux qui nous ont été décrits parmi ceux-ci. Que ce soit le nombre d'ailes, le fait qu'ils ont des ailes, le fait qu'ils sont ni hommes ni femmes, le fait qu'ils sont créés de lumière, le fait qu'ils ne désobéissent jamais à Allah, etc. Quatrièmement, la foi dans le fait qu'ils occupent des fonctions précises et qu'ils accomplissent leurs actions selon les ordres d'Allah tabarak wa ta'ala sans jamais lui désobéir. Croire dans les livres, c'est d'avoir foi en six points. Premièrement, croire que ces livres sont la parole d'Allah, qu'ils proviennent réellement de lui. Ça c'est un. Deuxièmement, croire qu'ils sont incréés, qu'ils ne sont pas des créatures, car c'est la parole d'Allah. Et la parole d'Allah est un attribut parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, croire que pour chaque messager qu'Allah a choisi, il a envoyé un livre. Ceux qu'Allah ta'ala a choisi parmi ses messagers ou prophètes, il a envoyé des livres avec eux. Et on va voir peut-être en détail quelle est la différence entre un messager et un prophète dans l'explication de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inshallah. Croire en ceux dont nous avons connaissance, comme le Coran, la Torah, l'Injil, l'Évangile, les Az-Zabur, les Psaumes, les feuillets d'Ibrahim et de Moussa, Suhufu, Ibrahim et Moussa, ainsi que ceux dont nous ignorons les noms. On sait que d'autres prophètes ont reçu des livres dont on ne connaît pas les noms. Croire en la véracité des informations des livres révélés, comme celles du Coran, ainsi qu'en celles n'ayant subi aucune altération ou falsification pour ceux qui aient des autres livres. Mais comme on sait qu'ils ont été falsifiés, donc, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne démentez pas ce que les gens du livre vous rapportent et n'y croyez pas. Ni vous démentez, ni vous y croyez. Parce qu'il peut te rapporter une chose qui est vraie, et tu vas démentir, ça vient vraiment d'Allah. Et tu peux croire une chose qui a été falsifiée, et en fait elle ne vient pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour ça, il a dit, ne démentez pas dans ce que les gens du livre apportent, ni ne les acceptez. N'y croyez pas et ne les démentez pas. Et sixièmement, la pratique avec satisfaction et soumission totale de toutes les lois qui n'ont pas été abrogées, connaissant ou non leur sagesse. Et tout en sachant que le Coran est venu abroger tous les livres révélés antérieurs. Le Coran, il est venu confirmer ce qui était juste dans les livres passés, corriger ce qui était faux, abroger certaines règles qui étaient vraies mais qui sont dépassées. Et il est venu clôturer le message et il est au-dessus et il a abrogé tous les livres qui sont auparavant. Donc, il n'est pas permis à un croyant, après la révélation du Coran, d'aller regarder dans un autre livre. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu avec un morceau de la Torah avec lui, il est devenu rouge, il s'est mis en colère. Et il lui a dit, si Moussa était vivant aujourd'hui, il ne pourrait rien faire à part le suivre. Il a montré que ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam est suffisant. Car ce qu'il y a de bien dans les livres passés s'y trouve, et ce qui n'est pas cité, c'est où on n'en a pas besoin, où c'était faux, où c'est abrogé. Donc on n'a aucune utilité d'aller les chercher. Sauf une personne, un spécialiste dans le domaine, qui étudie cela pour montrer les contradictions, ou pour appeler les gens du livre à l'islam. C'est une permission spécifique à celui qui maîtrise le domaine. Par contre, celui qui ne maîtrise pas le domaine, il ne lui est pas permis de regarder les livres des koufars ou des innovateurs. Il doit se concentrer sur la vérité. Il ne doit pas emplir son cœur du faux, de poison. S'il emplit son cœur de poison, il n'a pas le remède. Qu'est-ce qui se passe? S'il met un virus, si bien on t'injecte un virus quelque part, quel est le danger? C'est qu'il se propage dans tout ton corps, jusqu'à qu'il tue ton cœur. Alors les ambiguïtés religieuses sont pires qu'un virus. Parce que ton corps, quand il meurt, tu vas le laisser, tu pars auprès d'Allah. Mais ton cœur, c'est ça sur quoi tu vas être jugé auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le jour, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour où ni bien, ni enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui se présente à Allah avec un cœur sain. Un cœur sain, c'est-à-dire il est préservé de deux maladies, qui sont الشبهات, les ambiguïtés, ou الشهوات, qui sont les passions, les désirs. Les ambiguïtés, elles se combattent qu'avec la science authentique. Et les passions, elles se combattent avec la force de la foi et les bonnes actions, pour diminuer la force des passions et des envies. Donc, c'est pour cela qu'il est nécessaire aux croyants de se concentrer à connaître leur religion. Comment ils se permettent d'aller écouter tout le monde et n'importe qui? Ils se mettent en danger. C'est comme une personne qui est habillée d'un bel habit blanc et qui court dans la boue. Comment il veut sortir tout propre? C'est impossible. Au moins une de ces ambiguïtés, elle va toucher son. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est fâché quand Omar, il est la Torah dans lui. Omar, radiallahu anhu. Est-ce qu'il a un doute? Non. Et c'est une leçon pour toute la communauté. C'est pour cela que les grands imams de l'islam, ils étaient très durs envers les gens qui lisaient les livres des philosophes, ou qui lisaient les livres des égarés, ou des innovateurs, ou qui les écoutaient. On leur a même demandé, j'ai vu une personne avec tel innovateur, qu'est-ce que je fais? Il lui dit, préviens-le que c'est un innovateur. Il dit, et s'il continue à rester avec lui, il dit, considère-le innovateur comme lui. Parce que la personne, tu le préviens, tu es en danger là. Là, cette personne, elle va corrompre ta religion. Voilà qu'est-ce qu'elle a. Et toi, tu continues à aller avec lui. Donc, tu n'as aucune valeur pour ta religion. La personne a la même religion que son compagnon. Tu l'as choisi comme compagnon, ça veut dire que tu agresses sa religion. Aujourd'hui, la plupart des musulmans, ils ne prêtent pas attention du tout. Surtout avec les réseaux sociaux. Ils cliquent. Tout ce qu'ils voient, ils cliquent. Subhanallah, comment ce clic-là, il est dangereux. Tout ce qu'ils voient, ils cliquent. On lui envoie une chose, ils cliquent. Ils voient un titre attrayant, ils cliquent. Ils regardent tout. Ils regardent un shaitan, ils regardent un homme, ils regardent une femme, ils regardent un kafir, un musulman, un innovateur, un ignorant, quelqu'un qui n'a jamais étudié. Ils parlent. Tous ceux qui parlent, tout le monde les écoute. Est-ce que tous ceux qui parlent, tout le monde doit les écouter? Est-ce que tout le monde mérite d'être écouté, les frères? Ou est-ce qu'on doit savoir à qui tendre l'oreille? Ça, c'est un point essentiel pour celui qui veut se préserver. Dans toute chose, celui qui tend l'oreille, il met son cœur en danger. Et celui qui son cœur, il se corrompt, les doutes pénètrent son cœur, après il court partout, il est troublé, toujours dans le doute. Et après il vient, oui mais on m'a dit, oui mais j'ai entendu, oui mais on m'a dit, oui mais j'ai vu, oui mais... Ya akhi, barakallahu fik. C'est pas comme ça qu'on apprend la science, c'est pas en gobant tout ce que tu trouves à gauche à droite, après tu viens vomir tout ça devant une personne pour qu'il essaie de t'aider. Qu'est-ce qu'il va faire dans tout ce fouillis après? Comment il va prier tout ça? Faut qu'il recommence tout avec toi. Il détruit tout, il recommence tout à zéro. Et une méthodologie. Ne prends que de gens de confiance, que des paroles de confiance. Peu, avec certitude de sa véracité, c'est mieux que beaucoup dont tu ne sais pas d'où ça provient. C'est pas comme les gens font. D'abord il écoute, après il se renseigne. Il a écouté, maintenant il a ces choses-là, elles sont entrées dans son cœur, maintenant il cherche. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ce que j'ai écouté? Est-ce que tu as la capacité de chercher sur tous ces points? Est-ce que tu as les outils? Non. Qu'Allah nous dit. Donc, la croyance dans les livres. La croyance dans les messagers, cela comporte aussi 6 points. Le fait de croire avec certitude que leurs messages sont une révélation de la part d'Allah, de croire en ceux dont nous connaissons les noms tels que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ibrahim, Moussa, Isa et Nour, ainsi qu'en ceux dont nous ne connaissons pas les noms. de croire en ceux qui ont été authentifiés de leurs informations, de croire qu'ils ne sont que des hommes et qu'ils n'ont aucune part de la seigneurie, croire qu'ils ont accompli leur mission de manière complète, ils ont conseillé leur communauté, ils ont transmis leur message, et de croire que le premier des prophètes est Adam, et le premier des messagers est Noé, et que le dernier prophète et messager est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le premier des prophètes est Adam. Le premier des messagers est Nuh alayhi salam. Et le dernier prophète et messager est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout prophète, tout messager est obligatoirement prophète. Mais tout prophète n'est pas automatiquement messager. Et les savants ont divergé sur la différenciation entre un prophète et un messager. C'est-à-dire un prophète qui n'est pas messager, et un prophète qui est en même temps prophète et messager. Pourquoi celui-là est prophète et messager et l'autre n'est que prophète? Nabi ou Rasoul. Il y a eu plusieurs paroles qui ont été dites sur cela. Et le plus juste, c'est qu'un messager est celui qui a été envoyé envers un peuple contrevenant. Alors qu'un prophète, il est envoyé vers les croyants pour les rappeler. Il y a des prophètes qui ont reçu des livres, qui ne sont pas messagers. Parce que le peuple envers qui ils ont été envoyés sont des croyants. Et il y a des messagers qui n'ont pas reçu de livre, mais ils ont été envoyés vers un peuple contrevenant. Ça, c'est l'avis, Inch'Allah, le plus juste, qui a été défendu par Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, et l'Amin Shinqiti, et beaucoup de savants qui appuient cet avis-là. Il y a d'autres avis, mais on peut trouver à redire pour chacun des autres avis, et des réponses. Parce que quand ils disent, par exemple, le messager, c'est celui qui a un livre, et celui qui est prophète, c'est celui qui n'a pas de livre. Alors, on trouve certains qui ont été cités dans le Coran comme prophètes, et qui ont eu des livres, qui n'ont pas été cités comme messagers, et on trouve certains qui ont été cités comme messagers qui n'ont pas eu de livre. Donc cela repousse cette définition. Et on voit que la meilleure définition, c'est celle qu'on a donnée. Quand on regarde chaque prophète qu'Allah a nommé messager, on voit qu'il a été envoyé vers des mécréants, vers des contrevenants. Alors que chaque prophète qu'Allah n'a pas nommé messager, on voit qu'il a été envoyé à un peuple croyant. Wallahu a'lam. Croire au jour du jugement dernier, c'est croire au jour dernier, avoir foi en tout ce en quoi nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam après la mort, comme le bassin, le pont, le châtiment de la tombe, le souffle dans la trompe, la balance, l'intercession, le paradis et l'enfer. Croire au destin bon ou mauvais, cela comporte 4 degrés. Premièrement, la science. Croire qu'Allah a connu toutes choses de façon globale et détaillée dans un infini passé et un futur éternel. Soit en relation avec ses actes ou bien avec ceux de ses serviteurs. Donc Allah, il a la connaissance de toutes choses en détail, globalement et en détail, infiniment, que ce soit ses actes à lui ou les actes de ses créatures. Le deuxième degré, c'est l'écriture. C'est croire qu'Allah a écrit tout cela dans la tablette préservée auprès de lui. Troisièmement, la volonté. Croire que toutes les choses créées n'existent que par la volonté d'Allah. Que ces choses soient reliées aux œuvres d'Allah ou à celles de ses créatures. Que le serviteur possède une volonté, cependant, la volonté d'Allah prédomine sur celle de celui-ci. Et croire qu'il se passe par sa volonté des choses que les serviteurs font dans les choses qu'Allah aime ou dans les choses qu'Allah déteste. Ça, c'est la volonté universelle. Alors que ce qui concerne la volonté religieuse, elle peut se passer comme ne pas se passer. Et ça, c'est que dans ce qu'Allah aime. C'est-à-dire, Allah aime que les gens fassent la salat, que les gens soient croyants. Mais il leur a laissé le choix. N'est-ce pas? Allah déteste la mécréance. Il déteste la turpitude. Pourtant, elle se passe sur terre. Parce qu'Allah leur a laissé le choix. Il a voulu que cela se passe d'une volonté universelle. Mais il n'aime pas cela. Pour une sagesse plus grande, qui est le jugement. Et quatrièmement, la création. Croire que toutes les choses existantes, concrètes ou abstraites, sont des créatures d'Allah, tabarak wa ta'ala, dans leur essence, leur caractère et leur mouvement. Allah a tout créé. Même tes propres actes, c'est Allah qui les crée. Personne ne peut créer. C'est toi qui les veux. C'est toi qui les fais. Mais c'est Allah qui les crée. Le seul créateur est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà ce qu'on peut dire en résumé sur les 6 piliers de la foi. On peut détailler beaucoup plus que ça. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallillahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.